D'abord le journal, bonsoir Sébastien Legenie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, Omicron qui explose aussi chez les personnes les plus âgées. Jusqu'ici relativement épargné par ce variant, 200% de cas en plus en une semaine chez les plus de 70 ans. Santé publique France redoute dans les prochaines semaines une hausse des hospitalisations, précision en début de journal. Omicron qui sème la pagaille à l'école également, classes fermées, classes désertées, profs désemparés, les syndicats d'enseignants appellent à la grève la semaine prochaine. Et en attendant, les parents, eux, s'arrachent les cheveux avec les nouveaux protocoles. Reportage à Marseille à suivre. À suivre également, témoignage d'un Kazakhstanais vivant en France, dont la famille est victime des répressions en cours dans son pays. Un déficit commercial français record en novembre. Le candidat Zemmour qui s'essaye à la ruralité. Et un festival de danse hip-hop pour terminer à Suresnes, une référence depuis 30 ans.
France Inter. Et la tempête Omicron affecte désormais les Français les plus âgés.
Oui, c'est le constat inquiétant réalisé ce matin par Santé publique France. Les contaminations grimpent dans tous les secteurs. 261 000 cas hier, 2% au total de la population française testée positive. La classe d'âge la plus touchée reste celle des jeunes de 20 à 29 ans. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Mais le variant Omicron, très contagieux, augmente également énormément chez les plus de 60 ans.
Oui, la déferlante Omicron n'épargne personne, pas même les plus vaccinés, c'est-à-dire donc les personnes âgées. Les derniers chiffres fournis par Santé publique France concernent la dernière semaine de l'année 2021, mais déjà à ce moment-là, chez les 60-69 ans, l'incidence était de 1058 pour 100 000 habitants, 1% donc. Et parmi les seniors, c'est chez les plus de 70 ans que l'augmentation a été la plus forte ces derniers jours, au-delà de 200%. En fait, quand on regarde un mois en arrière, le bond épidémique est impressionnant. C'est sans surprise dans les grandes villes, source de contacts plus fréquents, qu'on enregistre le plus de cas, Paris, Marseille, Montpellier, Strasbourg, Rouen, Toulon ou Saint-Étienne. Et parmi les régions, Provence, Alpes, Côte d'Azur connaît la plus forte incidence.
Une augmentation des cas chez les personnes âgées, ça veut dire, Sophie, un risque d'impact important sur le système hospitalier.
Oui, plus d'entrées à prévoir, même si ces personnes sont les mieux protégées avec 92% de couverture vaccinale en moyenne. Les seniors ont adhéré massivement en plus à la campagne de rappel. Mais puisque la vaccination n'empêche pas la contagion, en particulier avec Omicron, et suite aux retrouvailles de Noël et du jour de l'an, mathématiquement, certaines personnes plus fragiles pourraient se retrouver à l'hôpital ces prochaines semaines. Alors, pas forcément en soins intensifs, où les taux d'occupation de lits sont stables depuis 4 semaines, mais en hospitalisation simple avec supplément en oxygène. D'autant que cette année, ne l'oublions pas, la grippe est assez sévère et que cette épidémie-là est plus présente en 2021-22 que l'an passé.
Sophie Becherel, Omicron qui sévit aussi largement dans les cours d'école. On le sait, 8% des personnels adultes de l'éducation nationale sont actuellement absents. Autre chiffre, 9200 classes fermées. Autrement dit, la situation est de plus en plus difficile à gérer au sein des établissements. Ras-le-bol des syndicats d'enseignants qui ont décidé de se faire entendre. Appel à la grève jeudi prochain, le 13 janvier. Des deux syndicats, SNUIPP, FSU, SEUNSA, mais également du SNES, FSU, SNALC, CGT, SUD et FO. Ras-le-bol aussi des parents qui ont découvert aujourd'hui un nouveau protocole sanitaire censé être plus souple. Désormais, la règle pour les enfants cas contact, c'est pas plus de 3 tests en 7 jours. 2 modifications du protocole en une semaine. Des changements qui provoquent une certaine lassitude chez les parents et les enfants. William Delesseux s'est rendu à la sortie des écoles du quartier du Panier à Marseille en plein centre-ville.
L'école est finie et c'est le week-end pour Luna. Essoufflée en remontant les rues du Panier, élève en CP, elle a presque tout compris au nouveau protocole sanitaire.
En fait, il y a eu un cas de Covid dans ma classe et du coup, la maîtresse a envoyé à tous les parents qu'il y avait 3 élèves qui avaient le Covid. Du coup, on a dû faire le test.
Mais Luna n'a pas entendu parler de la nouveauté de ce matin. Si un nouveau cas se déclare la même semaine dans une classe, les élèves ne devront pas recommencer ce marathon des 3 tests. Marathon des changements que sa mère Faïza a du mal à suivre.
Je vous avouerai que c'est un peu pesant pour les enfants qui ressentent quand même ces angoisses-là et tout le monde est perdu et ça devient lourd au quotidien.
Pour d'autres, c'est effectivement très flou. Et l'allègement de ce matin, vous n'en avez pas entendu parler ?
Non, il y avait un allègement ce matin.
Ces protocoles qui s'enchaînent, là, ça vous fait quoi ?
Franchement, c'est chiant, je peux le dire ou pas ? Désolé, mais ouais, c'est chiant.
Incompréhension aussi des enseignants. À Marseille, comme partout, leur syndicat, le SNUIPP-FSU, appelle à la grève jeudi prochain. À sa secrétaire départementale Virginie Acluatte.
On a une situation dans les écoles qui est de l'ordre du jamais vu. On se doit de prendre des mesures forte de protection. Et cela commence par retourner à la fermeture de la classe dès le premier cas Covid.
Beaucoup réclament aussi des masques plus protecteurs en classe, comme ceux de type FFP2. 100 000 seront distribués pour les personnels et les enseignants qui le demandent par la mairie. Marseille, William Delesseux, France Inter.
Et puis ajoutons cet autre changement de protocole sanitaire pour éviter la saturation des pharmacies et des laboratoires. Plus besoin désormais d'un test PCR après un test antigénique positif.
La violente répression des manifestations au Kazakhstan inquiète jusqu'en France.
Oui, les forces de l'ordre ont désormais le droit de tirer pour tuer. Plus de sommation nécessaire. Ordre a été donné par le président Tokayev lui-même à la télévision d'État. Pas question donc de négocier avec les protestataires qualifiés de bandits armés qu'il faut, je cite, détruire. Difficile dans ces conditions d'avoir des chiffres précis sur les morts, les blessés, les arrestations, d'autant qu'Internet et le téléphone restent coupés. Seul moyen d'avoir quelques bribes d'informations, interroger des proches ici en France. Thibault Lefebvre est ainsi entré en contact avec des Kazakhstanais vivant dans notre pays, terrifiés par les affrontements en cours dans leur pays.
Depuis 5 jours, pour les quelques centaines de Kazakhstanais de France, c'est évidemment un drame.
C'est horrible. Excusez-moi, je peux pas m'empêcher de pleurer.
Nirgul a les yeux rivés sur son téléphone portable. Elle tente tous les jours d'avoir des nouvelles de sa maman, laissée il y a 7 ans à Almaty, la ville du sud-est du Kazakhstan, est le cœur de la contestation.
On vit un enfer. Je dors plus, je mange pas. J'essaie de la contacter plusieurs fois par jour. Par exemple, hier, ma mère m'a raconté qu'elle attendait des cris, des tirs. Elle était terrifiée. Ce qui fait peur aussi, c'est d'imaginer mes quartiers où j'ai vécu détruits. Ça déprime.
Et puis le plus dur, c'est sans doute le manque de communication. Depuis plusieurs jours, Internet est coupé et la diaspora kazakhstanaise est à la recherche en permanence d'informations fiables et précises. Goulia a 48 ans et comme Nirgul, sa famille est à Almaty.
Pour les Kazakhs qui sont à l'étranger, on a créé une chaîne sur Telegram. Et chacun écrit s'il a pu contacter à un moment ou l'autre. Ils écrivent dans cette messagerie où ils disent il y a les tirs d'armes. Ils voient qu'il y a les gens qui sont tués vraiment.
Les Kazakhstanais de France ont prévu de se retrouver dimanche sur l'esplanade du Trocadéro à Paris pour dénoncer les crimes du régime.
Thibault Lefebvre, on revient en France avec ce très mauvais chiffre de la balance commerciale. Ce n'est pas nouveau, cela fait des décennies que l'Hexagone affiche un déficit, contrairement à nos voisins allemands. Mais au mois de novembre, nouveau record, 9 milliards d'euros de déficit entre les importations et les exportations, principalement dû à la flambée des prix de l'énergie. Delphine Simon.
Un plongeon qui s'explique par des raisons conjoncturelles. En cause, un pic inhabituel en fin d'année des importations d'électricité selon les douanes, avec l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires. Les prix du gaz et du pétrole, mais aussi ceux des matières premières et des biens industriels s'envolent, de quoi faire gonfler les importations. En parallèle, les exportations augmentent, mais moins vite. La crise du Covid et les problèmes d'approvisionnement pèsent sur l'aéronautique et l'automobile. Cela s'ajoute un phénomène continu. Depuis 20 ans, le déficit du commerce extérieur ne cesse de se creuser. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pointe la désindustrialisation de la France, une véritable désertion selon lui.
Que les responsables industriels prennent aussi leurs responsabilités et comprennent que le modèle qui consiste à produire systématiquement à l'étranger pour gagner 1 centime d'euro par pièce est un modèle indéfendable. Et nous n'y arriverons pas tout seuls, nous les responsables politiques. C'est aussi la responsabilité de capitaines d'industrie qui ont estimé qu'il valait mieux naviguer hors des eaux territoriales plutôt que dans les eaux territoriales.
De son côté, le Haut Commissariat au Plan dresse une liste des 50 produits qui pourraient être de nouveaux produits en France. Il souhaite engager une réflexion avec les filières concernées.
Delphine Simon, en politique, comment sortir de son image de polémiste parisien? Éric Zemmour à la rencontre aujourd'hui de la France des oubliés. Le candidat était en Eure-et-Loire, visite de communes, Bonneval, Villempuy, avant un meeting ce soir à Châteaudun. Objectif, ressortir des métropoles pour séduire un électorat rural qui aujourd'hui est loin de lui être acquis. Élodie Forêt.
Opération séduction de la ruralité.
Là, c'est l'ancienne maison de retraite.
Ouais. À Bonneval d'abord, la Venise de la Beauce.
Vous n'avez pas de gondolier ?
Éric Zemmour, parisien, né en banlieue, vient clamer son attachement à la France périphérique, la France des oubliés.
Je pense qu'il faut désormais favoriser délibérément les zones rurales et les zones de la France périphérique au détriment de la métropole et des banlieues qu'on a excessivement favorisées, à la fois par une fascination pour les grandes villes dans lesquelles tous les flux économiques passent et une fascination, alors là je dirais culturelle pour la banlieue. Je pense qu'il nous faut inverser ça de façon radicale.
Concrètement, il s'agit de rediriger les dotations, de rendre aussi les communes rurales plus attractives, favoriser le commerce de centre-ville en interdisant les grandes surfaces aux abords, redonner aussi du pouvoir aux maires.
Il faut vraiment renverser la table et faire que ces espaces ruraux qui ont été abandonnés, méprisés...
On a l'impression d'être les oubliés.
Exactement. Oubliés, soient de nouveau revivifiés et que deviennent la priorité nationale du pays.
Mais ces promesses auront-elles un écho? Selon un récent sondage dans les communes rurales, Éric Zemmour séduit beaucoup moins que Marine Le Pen. Pour le candidat, la route est donc encore longue avant de convaincre la France des oubliés.
Élodie Forêt, un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans le sud-ouest aujourd'hui dans un élevage de Haute-Garonne. Les volatiles ont dû être abattus. Au total, une cinquantaine de foyers en France de grippe aviaire. Des chiffres qui restent malgré tout bien moins lourds que les précédentes vagues épidémiques. Trois fois moins que l'an dernier, selon le ministre de l'Agriculture en déplacement aujourd'hui. Il est la première star américaine noire à avoir reçu un Oscar. L'acteur Sidney Poitier est mort aujourd'hui à l'âge de 94 ans. Oscar du meilleur acteur en 1964 pour son rôle dans Le Lys des Champs lui rend hommage dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
On termine par de la house music.
Oui, on va parler hip-hop, Frédéric. En effet, votre musique, votre danse favorite, c'est le festival Suresnes. Cité Danse s'ouvre ce soir, un rendez-vous incontournable de la danse hip-hop qui fête cette année son 30e anniversaire, le hip-hop qui a explosé en France ces dernières années. Stéphane Capron.
Olivier Meyer, le directeur du théâtre de Suresnes, crée le festival en 1993 sur un coup de cœur, une rencontre avec le chorégraphe Doug Elkins.
Artiste new-yorkais, parent d'adoption chinois, intégré dans la communauté juive, etc. C'était un mélange extraordinaire qui faisait danser des danseurs de hip-hop dans un quartier de Montpellier. Et j'ai vu là une sincérité, une fragilité, une humanité et une beauté qu'il ne mesurait pas qui m'a donné l'idée de programmer ces danseurs.
Depuis 30 ans, le festival Suresnes Cité Danse est devenu une référence. Il a participé à l'émancipation du hip-hop en élargissant le cercle des chorégraphes.
J'ai associé tout de suite des chorégraphes contemporains à ces danseurs de hip-hop parce qu'il n'y avait pas véritablement de chorégraphes hip-hop issus de la mouvance hip-hop qui pouvaient donner des spectacles à voir sur une durée dans un théâtre. Et donc ça a été toutes ces rencontres avec ces chorégraphes contemporains qui ont amené aussi la possibilité de danser sur d'autres musiques et notamment la grande musique classique, la musique baroque. Et maintenant, c'est très à la mode.
Ce soir, c'est un retour aux sources pour le spectacle d'ouverture. Les chorégraphes Saïd Ololou et Bouzid Aitman vont plonger les spectateurs dans la house music avec au platine DJ Samoane.
Voilà, ouverture ce soir du festival Suresnes Cité Danse sur un fond de house music qui se déroule donc ce festival jusqu'au 13 février. Rendez-vous demain à 6h53 également dans les coulisses du spectacle d'ouverture dans le 6-9 du week-end.
Merci Sébastien Legénie. Avant d'aller danser, on va prendre du temps, des nouvelles du temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Alors attention à la neige sur le nord-est ce soir.
Oui, ce soir une perturbation traverse le pays et sur le nord-est, eh bien, elle va donner de la neige entre ce soir et demain matin, plus marquée sur le nord du Grand Est. Une vigilance orange est en cours sur la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. On attend 3 à 7 cm, parfois jusqu'à 10 d'ici demain matin. Demain, le ciel sera souvent maussade avec un petit peu de pluie. Les pluies deviendront plus soutenues en journée du nord-ouest à la frontière belge. Le vent aussi se renforcera nettement jusqu'à 80 km à l'heure dans les terres, 100 à 110 sur le littoral. Il neigera encore en matinée sur les massifs à basse altitude. La neige remontera autour de 1000 mètres dans l'après-midi. Et puis en Méditerranée, ce sera plus agréable avec du soleil mais du vent.
Et il fera un peu moins froid.
Oui, quelques gelées résiduelles seulement dans l'Est et le Massif central. Et puis l'après-midi, 4 degrés à Metz, 5 à Lyon, mais 10 à Paris, 12 à Nantes, à Marseille et 14 à Perpignan.
Élodie Calac de Météo France, merci.